France Culture, il est encore 8h, le journal avec vous Anne-Laure Choin, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Une posture assumée en attendant des propositions de fonds. Emmanuel Macron a tenu hier son premier meeting à la Mutualité à Paris sans se déclarer candidat, tout en visant 2017 et en parlant d'un mouvement que plus rien n'arrêtera. Récit de Stéphane Robert au début de ce journal.
L'État français jugé en partie responsable de la mort d'Abel Chenouf, jeune militaire tué à Montauban par Mohamed Merah, un jugement qui pourrait en entraîner d'autres.
La prise de fonction de Theresa May aujourd'hui au Royaume-Uni, une femme pragmatique, plus sociale et plus progressiste que celle à qui on la compare désormais sans cesse, Margaret Thatcher.
Un an après le troisième plan d'aide à la Grèce, quelle est la situation économique du pays? Nous y reviendrons avec notre correspondante Angélique Kourounis.
Et puis la situation des prisonniers politiques au Vietnam, elle est insupportable. Un rapport d'Amnesty International dénonce torture, disparition forcée et refus de soins. Il a tout l'air d'un candidat sans l'être pour l'instant. Emmanuel Macron, le locataire de Bercy, tenait hier le premier meeting de son mouvement En Marche à la Mutualité. S'il s'est donné comme objectif 2017, il n'a pas pour autant parlé ni de démission ni de candidature. Peut-être parce qu'il a choisi de se positionner hors des partis politiques et au-dessus des clivages traditionnels. Le récit de la soirée d'hier avec Stéphane Robert.
S'il n'a pas vraiment déclaré sa candidature à la présidentielle, Emmanuel Macron, il a laissé entendre qu'il y pensait très fort.
Ce mouvement, maintenant, plus rien ne l'arrêtera. Ce mouvement, nous le porterons ensemble jusqu'en 2017 et jusqu'à la victoire.
Mais l'heure n'est donc pas encore venue pour celui qui reste encore jusqu'à nouvel ordre ministre de l'économie. D'ailleurs, il s'est inscrit hier soir dans la continuité de son action au gouvernement.
Le président de la République m'a fait confiance. Et je ne l'en remercierai jamais assez. Et pendant 2 ans, nous avons beaucoup fait. Il y a eu beaucoup de choses faites parce que j'ai vu un volontarisme, une envie de faire, de l'abnégation. Mais j'ai aussi vu les blocages et tout ce qui n'avançait pas. J'ai compris que quand on n'avait pas vraiment expliqué ce qu'on voulait faire, c'était plus difficile de le réaliser.
Dans la continuité donc, mais aussi dans la rupture, car le monde a expliqué Emmanuel Macron est en pleine transformation. À cause notamment du numérique et du changement climatique, il faudra donc accompagner tous ces bouleversements en changeant de logiciel d'organisation sociale et politique.
Notre modèle social, notre organisation collective qui a été conçue au fond en 1945 et en 1958, elle souffre au milieu de ces changements, elle les craint. Et ce ne sont pas des ajustements qui permettront d'accompagner cette transformation. C'est bien une refondation radicale des choses.
Changer radicalement les choses, mais pourquoi faire? Quelle vision du monde nouveau propose-t-il Emmanuel Macron? Comment rassurer et réconcilier une France qui déprime et qui se déchire? Là, le message du probable futur potentiel candidat n'est pas encore très clair. Certes, il est en marche, mais semble encore à la recherche de ce vers quoi il se dirige.
Stéphane Robert, une première victoire judiciaire pour la famille d'Abel Chenouf, ce jeune soldat abattu le 15 mars 2012 à Montauban par Mohamed Merah. Le tribunal administratif de Nîmes a jugé l'État en partie responsable de sa mort. Le tribunal a estimé que l'arrêt en amont de la surveillance du tueur de Toulouse avait compromis les chances d'empêcher un attentat. Les précisions de Nathalie Hernandez.
Une fiche S pour Sûreté de l'État, des voyages en Afghanistan et au Pakistan, des liens avec une mouvance radicalisée, tout cela a bien conduit à une surveillance étroite de Mohamed Merah. Or, elle s'interrompt, s'étonne le tribunal. Cette suspension a facilité son passage à l'acte et a surtout empêché de détecter un quelconque signe avant-coureur. Si Mohamed Merah avait été surveillé au moment du premier meurtre, le 11 mars 2012, cela aurait peut-être permis d'éviter la mort d'Abel Chenouf, écrivent les juges. Ce qu'ils désignent comme une perte de chance, et cette perte est une faute. Toute la responsabilité n'incombe pas à l'État, une partie seulement. Ce jugement va ouvrir la voie à d'autres procédures, car il y a peu de jurisprudence en matière terroriste sur une faute de l'État. Ce sera du cas par cas, mais il est évident que chaque attentat sera désormais examiné à la loupe pour savoir s'il y a eu des défaillances dans les systèmes de surveillance.
3 semaines après le vote en faveur du Brexit, le Royaume-Uni a donc une nouvelle première ministre qui prendra ses fonctions aujourd'hui. Theresa May, deuxième femme à prendre les rênes du gouvernement après Margaret Thatcher, à qui elle est souvent comparée ces derniers jours, mais elle est plus proche d'une Angela Merkel que d'une dame de fer, estiment ceux qui la connaissent. À Londres, la correspondance d'Annabelle Grelier.
Bien sûr qu'il y a des points communs. Évidemment, elles sont toutes les deux conservatrices, libérales et souverainistes. De plus, elles seront arrivées l'une comme l'autre au pouvoir dans des moments troubles et difficiles. Les mêmes nerfs d'acier, relève le Times. Une réputation que s'est forgée Theresa May quand, ministre de l'Intérieur, elle avait fait face au syndicat de la police tenant un discours de fermeté sur le bilan de corruption, d'incompétence, de racisme de nombreux éléments de la police britannique. Une position d'autorité qui n'était pas sans rappeler, en effet, l'opposition frontale de Margaret Thatcher face aux syndicats ouvriers à la fin des années 70. Même si Theresa May ne revendique pas vraiment la comparaison avec Margaret Thatcher, la figure tutélaire de la Dame de Fer est trop présente chez les Tories pour s'en défendre. C'est d'ailleurs plus son ancienne rivale, Andrea Leadsom, qui s'en attribuait la filiation. Theresa May dit vouloir mener une politique pragmatique, quand Margaret Thatcher n'était qu'idéologie. L'une prônait la dérégulation et la fin de l'État-providence, quand l'autre propose d'installer des représentants des travailleurs dans les conseils d'administration et de resserrer les contrôles sur les salaires des dirigeants, affirmant vouloir un pays qui fonctionne pour tout le monde. Plus social, plus progressiste, Theresa May n'est pas la nouvelle Margaret Thatcher. Le Guardian l'a dit plus proche d'une Angela Merkel ou même d'un Gordon Brown, enfants de pasteurs tous les trois.
Theresa May qui a répété ces derniers jours vouloir prendre le temps de négocier les meilleurs accords possibles avec l'Union européenne. Elle n'activera pas l'article 50 du traité de Lisbonne avant la fin de l'année.
France Culture, 8h passées de 7 minutes, la suite du journal d'Anne-Laure Chouin. Autre pays qui, lui, paye toujours sa volonté de ne pas sortir de la zone euro, la Grèce d'Alexis Tsipras.
Il y a un an, après un référendum qui rejetait à 61% les politiques d'austérité en Grèce, le gouvernement d'Alexis Tsipras acceptait tout de même un troisième plan d'aide de ses créanciers en contrepartie de mesures drastiques, le tout pour éviter à tout prix une sortie de la zone euro. 86 milliards d'euros prêtés sur 3 ans par l'Union européenne, le FMI et la BCE à des conditions draconiennes. Bilan un an plus tard de la situation dans le pays avec Angélique Coronis.
Le chômage a reculé, certes, mais il est toujours le plus haut de l'Union européenne avec 24% de la population active sans emploi et 50% des jeunes touchés. La retraite complémentaire a disparu, la TVA a augmenté, les salaires et les retraites à nouveau baissés, la récession se ralentit, mais se creuse toujours depuis 7 ans, les exportations et la consommation chutent et les privatisations se poursuivent. Pendant politique de cette situation, pour la première fois, le Syriza, le parti de la gauche au pouvoir, est dépassé dans les sondages par les conservateurs. Et le parti Obdoré, les néo-nazis grecs, sont toujours troisième force politique du pays. Plus de 30% des Grecs restent, eux, exclus du système de santé. En fait, seul le tourisme qui explose laisse espérer le pays. Et encore, la crise des migrants a instauré une fracture Est-Ouest. Les îles où arrivent les réfugiés sont délaissées au profit de celles à l'Est préférées par les touristes. Au niveau des négociations avec les créanciers, la situation n'est pas au beau fixe. Athènes attend toujours l'évaluation de l'application des réformes par les équipes de contrôle représentant les créanciers. Évaluation nécessaire pour bénéficier des tranches de prêts. Environ 22 milliards d'euros ont déjà été octroyés au pays sur les 86 prêtés, alors que la dette continue, elle, de plomber. L'économie nationale, estimée à plus de 20% du PIB, elle est actuellement à plus de 181%. Elle devrait être rediscutée en 2017, début 2018. En fait, selon bon nombre d'économistes, c'est une véritable politique d'huissier qui est appliquée à la Grèce, avec pour seul résultat l'augmentation des eurosceptiques.
La Grèce qui, en plus de sa situation économique, voit en effet toujours arriver des migrants sur ses côtes, mais désormais, c'est l'Italie qui est au premier rang des préoccupations de l'Agence des frontières extérieures de l'Union, Frontex. Le pays enregistre chaque jour 750 arrivées irrégulières. Au total, 360 000 personnes sont entrées illégalement dans l'espace Schengen depuis le début de l'année. C'est plus que l'année dernière sur la même période. Alors comment expliquer que l'Italie subisse plus qu'avant la pression migratoire? Les explications de Catherine Dutu.
Une raison à ce nouveau déséquilibre, l'accord conclu entre l'Union européenne et la Turquie en mars dernier. Ankara empêche effectivement les migrants de partir vers l'Union européenne en échange d'une aide financière et d'une future exemption de visa pour les ressortissants turcs qui souhaitent voyager dans l'UE. Ankara accepte également de réadmettre sur son territoire tous les migrants arrivés irrégulièrement en Grèce depuis la Turquie, 470 réadmissions à ce jour. La route de la Méditerranée orientale, Turquie-Grèce, n'est visiblement plus empruntée, les Balkans notamment barricadés. Mais le problème ne fait que se déplacer. Désormais, Libye, Italie, c'est le périotrajet emprunté par les migrants. Les 650 gardes-côtes déployés en Italie par Frontex font un constat alarmant. Depuis quelques mois, les trafiquants profitent de la saison pour surcharger davantage les bateaux. Plus d'une centaine de personnes massées sur des embarcations de fortune au péril de leur vie, avec 15 à 20 navires envoyés sur l'eau en même temps. Depuis 2014, plus de 10 000 hommes, femmes et enfants sont morts ou portés disparus en tentant de gagner l'Europe par la mer, pour la plupart en Méditerranée centrale, selon le HCR, le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. Une estimation à minima, car nous n'avons aucune trace de tous ceux qui fuient leur pays sans identification de leur bateau au départ, sans témoin ensuite de leur naufrage.
Catherine Dutu, l'Italie où une collision entre deux trains de voyageurs qui circulaient à grande vitesse a fait 25 morts et 50 blessés selon un nouveau bilan. L'accident s'est produit dans le talon de la botte italienne dans la région des Pouilles pour une raison encore inconnue sur un tronçon à voie unique. Je comprends ce que ressentent les Américains, mais je suis ici pour le dire, nous devons rejeter un tel désespoir. Je suis ici pour dire avec insistance que nous ne sommes pas aussi divisés que nous le semblons. Des paroles de Barack Obama hier à Dallas, où il était venu rendre hommage aux 5 policiers tués par un ancien militaire qui disait vouloir venger la mort de 2 Noirs quelques jours plus tôt lors de contrôles policiers. Un discours où le président américain a beaucoup parlé donc d'unité et de réconciliation. Le récit de notre correspondante aux États-Unis, Charlotte Alix.
Le président se rendait à Dallas avec un double objectif, consoler les policiers et les familles qui ont perdu 5 des leurs et rassurer dans le même temps un pays qui redoute que cette semaine de violence ait aggravé les divisions raciales. À tous, Barack Obama a délivré un message d'optimisme, répétant que le pays n'était pas aussi divisé que cela. Dans un discours éloquent, il a mis les uns et les autres devant leurs responsabilités.
Nous savons que l'immense majorité de nos policiers font un travail incroyablement dangereux et difficile. Avec équité. Ils méritent notre respect, pas notre mépris. Nous savons aussi que des siècles de discrimination ne se sont pas évaporés avec la signature d'une loi sur la ségrégation. Aucune institution n'est épargnée, y compris la police.
And that includes our police departments. Unité, c'est probablement le mot que le président voulait que les Américains retiennent aujourd'hui. C'était aussi le mot choisi par les autres orateurs lors de cette cérémonie, notamment par George Bush, le prédécesseur de Barack Obama et habitant de Dallas.
Parfois, on a l'impression que ce qui nous sépare est plus fort que ce qui nous rassemble. Nous jugeons un autre groupe au regard de ses pires exemples, quand nous jugeons le nôtre au regard de nos bonnes intentions. Mais les Américains ont, je crois, un avantage. Pour retrouver notre unité, nous n'avons qu'à nous souvenir de nos valeurs.
Mais Barack Obama l'a lui-même reconnu, l'esprit d'unité qui suit ce genre de tuerie ne dure généralement pas. Malgré ses appels à la réconciliation, le président a semblé à certains moments fatigué et découragé.
Charlotte Alix, disparition forcée, torture, refus de soins, c'est ce que vivent des centaines de prisonniers d'opinion au Vietnam. Amnesty International a rendu hier un rapport basé sur un an de travaux et de recueils de témoignages. Pourtant, en 2015, le Vietnam avait ratifié la Convention des Nations Unies contre la torture, mais dans ses prisons, elle ne l'applique pas, faute, selon Amnesty International, de volonté politique. Thomas Schoner.
Parmi les témoignages recueillis par Amnesty International, celui de ce militant, arrêté en 2008, emprisonné pour avoir organisé des manifestations pacifiques en faveur de la liberté religieuse et des droits humains. Les 10 premiers mois de sa détention, il les a passés à l'isolement, dans une obscurité totale. Pendant 2 mois, tous les jours, il a été frappé, électrocuté, une méthode parmi d'autres pour faire craquer les prisonniers. John Coghlan a mené ses entretiens pour l'ONG.
Another type of abuse that we documented is punitive prison transfers.
Parmi les mauvais traitements que nous avons recensés, il y a les transferts punitifs. Des militants sont transférés de prison en prison à travers le pays. Cela rend de plus en plus difficile les visites des familles. Le but, c'est d'isoler les prisonniers d'opinion, les faire se sentir seuls, pour les punir, mais également pour obtenir des aveux pour ensuite les condamner.
Le gouvernement vietnamien est actuellement en train de réformer le code pénal. Amnesty International y voit d'ailleurs une ouverture, mais les résultats se font encore attendre.
Vietnam, on one hand, is
D'un côté, le Vietnam montre qu'il veut s'engager de plus en plus au sein de la communauté internationale, et y compris sur la question des droits de l'homme. Mais ce que nous voulons voir aujourd'hui, ce sont des changements concrets. Il faut que les lois vietnamiennes soient conformes à la Convention contre la torture. Ce que nous voulons voir, c'est une volonté politique.
Dans son rapport, l'ONG a identifié 84 prisonniers d'opinion actuellement incarcérés au Vietnam. Leur nombre exact pourrait être bien plus élevé.
Amnesty qui dénonce aussi ce matin une multiplication sans précédent des disparitions forcées en Égypte, ainsi que le recours à la torture. Le président égyptien Al-Sisi a instauré un pouvoir ultra-répressif depuis 2013 et selon l'ONG, les disparitions forcées sont devenues un des instruments clés de sa politique d'État. Un mot de météo pour terminer. Toujours des averses et des nuages sur la plupart du pays, sauf en Méditerranée. L'après-midi, le temps sera moins instable sur l'ouest. Les températures toujours fraîches pour la saison de 10 à 15 degrés ce matin du nord au sud, 18 à 22 près de la Méditerranée. Cet après-midi, pas plus de 17 à 24 degrés sur l'ensemble du pays. Localement, 30 à 32 degrés sur la Côte d'Azur.